Interview.
'Air du Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc-en-Divois. Et l'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Christian Lecorvic. Bonjour.
Bonjour Yves.
Christian, tu es ici pour nous annoncer la nouvelle saison des Rencontres d'Ivoises. Voilà, un nouveau nom pour cette organisation. Et donc, c'est un programme qui permettra d'écouter des conférences données par des personnalités de la science, de la connaissance aussi, et qui s'adresse à tout public. Et ça aura lieu principalement à l'espace social et culturel du Diwa pour cette saison qui commencera le 22 octobre. Mais avant de commencer, on peut résumer ce que sont les Rencontres d'Ivoises.
Alors, les Rencontres d'Ivoises sont nées en 2007, plutôt 2016, oui, à la suite d'une, souvenons-nous tous, et nous l'avons tous en tête, des attentats du Bataclan en 2015. Et j'avais entendu le président de l'époque, le président de la République de l'époque, M. François Hollande, dire « nous sommes en guerre ». Et ce terme m'a fait violence, je dois le dire. Je considérais que la guerre, c'est un affrontement entre deux forces, je dirais, qui s'opposent de manière visible. Et je me suis dit, l'émotion prend le pas sur la raison. Et à ce moment-là, j'ai contacté le premier intervenant, qui était Gérard Braque, qui traite de philosophie politique, qui était venu nous parler du peuple. Et à partir de ce moment-là, sont nées donc, les Rencontres de Luc, qui ont fait intervenir pendant 4 saisons, puisque nous avons fait donc 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, c'est un peu fastidieux. 2019-2020, effectivement interrompu du fait du Covid, et puis c'est reparti doucement l'année dernière. Et puis, il fallait passer à une vitesse supérieure, ce qu'on fait cette année, puisque nous aurons 8 intervenantes ou intervenants pour ce qui ne s'appelle plus conférence. On va peut-être me dire que je joue sur le mot, mais entretien avec. Pourquoi cette différence? Je me suis dit casser peut-être la notion de verticalité, c'est-à-dire conférence. Il y a toujours quelqu'un qui, d'une certaine position, donne la bonne parole. L'entretien avec instaure, de mon point de vue, il faudra bien sûr en faire l'expérience, l'horizontalité. C'est-à-dire une intervention d'une quarantaine de minutes de l'intervenant ou tout l'intervenant et un échange que j'espère le plus ouvert et le plus vaste possible avec le public qui, j'espère, sera nombreux.
Ce public, quel bénéfice en retire-t-il? Parce que je suppose que c'est un public habituel, qui vient souvent ou même à toutes les conférences. En quoi ça les enrichit? Et est-ce que cela aussi entretient une liaison entre tous, d'amener aussi d'autres discussions, outre que cette organisation?
Moi, je dirais que, de par mon expérience personnelle, je serais peut-être incapable de te dire ce que directement un intervenant ou une intervenante produit sur moi. Ou c'est comme quand j'entends une émission de radio, que je regarde une émission de télévision ou un film, quel que soit d'ailleurs le domaine, je suis incapable de dire qu'est-ce que ça produit. Alors, il y a une émotion, bien souvent, il y a éventuellement des motifs de réflexion sur un sujet, mais qu'est-ce que ça construit globalement? Je ne pense pas que le dire pour moi-même, et donc j'ai encore moins de possibilités de le dire pour les autres. Moi, ce que j'ai dans cette démarche que j'ai toujours eue, c'est pas d'amener la science infuse. Un intervenant vient, exprime un point de vue sur un sujet et chacun s'enrichit de ce qu'il peut percevoir, de ce qui correspond à ce qu'il souhaite entendre ou souhaite entendre ou découvre d'ailleurs, parce que l'intérêt, c'est pas d'entendre quelque chose qui nous conforte, c'est peut-être des fois quelque chose justement qui nous met plutôt dans un questionnement par rapport à ce qu'on entend. Voilà. Donc j'aurais du mal à dire ce que ça crée, mais effectivement, pour te rejoindre là-dessus, tout le questionnement qu'on peut avoir, mais qui en plus, dans ce qu'on est en train de vivre depuis quelques temps, repose question. C'est-à-dire, comment on fait communauté ? Comment on fait que des gens qui se retrouvent à 25 dans une salle vont pouvoir échanger sereinement, même s'ils ne sont pas du même point de vue, même s'ils ont des avis divergents, mais comment vont-ils pouvoir se parler et trouver éventuellement une forme qui sera très contestée par le dernier intervenant, qui sera Gérard Bras, qui viendra vous parler du dissensus, qui est, je vais employer un terme qui le choquerait certainement, de compromis, de trouver des points de convergence qui nous amènent à trouver des solutions qui ne sont certainement pas ce qu'on souhaiterait totalement vouloir voir de notre point de vue, mais qui est un juste milieu entre mon point de vue et celui d'un tiers.
Est-ce que ces rendez-vous, les rencontres d'Iwaz et précédemment les rencontres de Luc, permettent aussi d'avoir une information sur certains sujets, certains thèmes, justement à pouvoir en tirer parti et de créer ou amener des idées, des réflexions en vue d'établir une idée politique sur le territoire aussi?
Je sais pas si je peux l'exprimer comme ça. Est-ce qu'on doit avoir cette ambition? J'en sais rien. Politique, ça veut dire des choses tellement différentes que j'aurais du mal à en faire une définition précise, de mon point de vue, en tous les cas.
Plutôt une direction, alors.
Voilà, une direction. Je vais te donner un exemple qui est peut-être un peu à côté, mais qui est... je me suis posé la question du covoiturage. Chose qui ne s'était jamais posée. Je n'avais jamais pensé au covoiturage jusqu'à présent. Bon, les conditions actuelles font qu'il me semble important de pouvoir l'envisager pour des raisons qui font que des gens qui habitent, comme moi, par exemple, j'habite chez Reims, des gens qui habitent à Valdrome, des gens qui habitent à Borrières, sont très loin de Die. Et est-ce qu'ils ont... Ils peuvent avoir le désir de venir, mais la contribution que ça leur demande, financière, en termes de mouvement... font que pour certains, ils vont peut-être se dire, mais c'est peut-être très intéressant, mais là, il va falloir que je tape 40 km, enfin 80 km aller-retour. Bon, voilà. Donc l'idée du covoiturage s'est imposée aussi pour moi en me disant, voilà, comment on peut justement permettre à des gens de retrouver une forme de mobilité qu'ils ont perdue en grande partie. Le Covid aussi nous a tenus bien souvent enfermés chez nous sans pouvoir en bouger. Et on voit qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Je pense qu'on a tous... une certaine, je parle de moi en tous les cas, à certains moments, une difficulté à me bouger. Voilà, je me suis dit, tiens, le covoiturage, c'est une première marche. Alors, il faut peut-être monter, pour monter un escalier, effectivement, il y a une succession de marches. Donc, il faut prendre la première pour avoir la seconde. Ça commence par le covoiturage. Mais l'idée, l'idée des conférences... à l'époque et des entretiens maintenant, c'est de créer un ferment, d'une certaine manière, tu vois. Que chacun se dise, tiens, je pourrais peut-être faire les choses autrement. Je pourrais peut-être les faire avec mon voisin. Je suis venu avec une amie qui habite chez Reims, on a parlé du covoiturage. Des fois, on se dit, mais je vois des gens sortir, partir tous les matins, pourquoi je ne les aide pas en leur disant, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me remontrer, j'ai oublié le lait. On ne le fait pas. On a tellement d'habitudes de consommation, de circuler comme on le faisait depuis très longtemps, en se disant, j'ai une voiture, bon, je descends, je vais faire mes courses sans poser question. Maintenant, on peut se dire, pourquoi pas, tu descends. Est-ce que tu ne peux pas me remonter quelque chose dont j'ai besoin? Voilà, et je pense que c'est plutôt l'idée de... Je crois que c'est une période qui va être assez riche. Il est riche, c'est une période riche en danger. Mais c'est aussi tout à la fois, le danger, c'est quelque chose qui nous fait bouger. Je crois à ça aussi. Tu vois. Me dire, tiens, ça peut commencer par un petit truc à la con, le covoiturage, mais ça peut aussi créer... Déjà, quand tu prends quelqu'un que tu ne connais pas, c'est comme le stop. Tu discutes avec quelqu'un dont tu ne connais rien, que tu as vu là, que tu ne reverras certainement pas. Et pourtant, des fois, en une demi-heure, tu t'aperçois que ça te rapporte énormément d'informations sur une activité, sur une personnalité, et ça t'enrichit. Donc l'idée, c'est de s'enrichir. Voilà, c'est l'idée globale.
Justement, on parle de cette période de pause, en quelque sorte, avec cet avènement de la pandémie. Ça a remis beaucoup de choses, de réflexions en question, d'évidence même, d'alors. Ça a introduit un petit peu aussi cet aspect de la conférence qui sera donnée le 22 octobre par Pierre-Marie Aubert, avec le titre « Sécurité alimentaire mondiale et transition agroécologique en France et en Europe ». Alors, il s'agit d'enjeux économiques et de leviers politiques. Là où je voulais en venir, c'est que déjà, même au niveau local, on réfléchit aussi sur le fait de consommer l'alimentaire, d'amener aussi sa production localement. Et j'imagine que ça se déroule partout en France ainsi. Et donc, est-ce que ce qui est proposé lors de cette conférence est aussi un inventaire de ce qui est proposé au niveau mondial ou européen sur les politiques d'alternance de cette agriculture intensive ou qui ne répond plus aux exigences environnementales.
Totalement. Pierre-Marie Aubert, c'est un spécialiste, un chercheur qui fait partie de l'IDRI, qui est un spécialiste de la biodiversité et de l'évolution agroalimentaire. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est complètement dans les logiques du territoire. Et par rapport à ça, pour faire un écho à ce qu'on disait précédemment, je précise que cette conférence sera soutenue par la Carline, qui offrira à la fin de l'entretien un verre. Mais plus globalement, ce que je souhaiterais, et peut-être par la voix des ondes, j'invite ceux qui entendront ce message, c'est aussi de mettre en miroir les propos de Pierre-Marie Aubert avec ce que vit le territoire. Dans l'aspect agricole, élevage, négoce, je parlais de la Carline, mais aussi d'autres types d'entreprises comme l'Herbier d'Ilouis, par exemple, des gens qui viennent un petit peu en contrepoint, donner la vision des gens qui travaillent ici, les circuits qui sont les nôtres, une forme de spécificité de la Drôme, peut-être, au sens large. Donc voilà, qui est une sorte d'échange que j'espère le plus fructueux possible pour les deux parties, en disant, voilà, qu'est-ce que c'est ? Parce que l'Europe est loin, on voit bien, les gens sont très sceptiques sur l'Europe. Je pense que c'est une erreur, mais on ne va pas rentrer dans ce domaine.
Ce sera débattu.
On aura l'occasion. De toute façon, on va parler... Enfin, c'est des sujets... Les sujets vont être très vastes. On parle de l'agroalimentaire, mais je pense que le dérèglement climatique est au sommet de la pyramide. Si on n'a pas, un climat qu'on arrive à juguler tel que nous avons pu le voir à l'occasion des périodes de canicule, on va avoir une agriculture qui a déjà extrêmement souffert cette année, ce qui sous-entend que l'agroalimentaire risque de s'effondrer. On a entendu éventuellement les problématiques de lait qui devraient intervenir, en tous les cas dans ce dernier semestre, pour les industriels de l'agroalimentaire. Et ça veut dire, c'est l'effet domino. Et je crois que c'est d'ailleurs politiquement parlant, on parlait de politique, je crois que, mais ça c'est une petite aparté, je crois qu'on a très peu entendu les politiques de tous bords se poser la question, justement, de ce que va aborder Pierre-Marie Aubert. De quoi avons-nous besoin et comment les choses doivent évoluer en fonction du dérèglement climatique ?
Ça, c'était pour le samedi 22 octobre à 19h. Hein. Ensuite, le mois suivant, vendredi 18 novembre, à 19h toujours, il y aura Emmanuel Ménoni et Claude Berducou. Eux présenteront un entretien autour de Heures et malheurs des relations hommes-biodiversité dans les montagnes. Donc il s'agit de considérations relatives aux animaux sauvages et à leur habitat. Ça c'est un aspect pas très connu aussi. On parle des animaux, mais... Moi, personnellement, je ne connais pas leur mode de vie, d'existence dans la nature. Et quel impact l'activité humaine empiète sur la leur.
Oui, tu as tout à fait raison. Il y a un chiffre que j'ai entendu récemment, c'est en 40 ans, 60% de la biodiversité a disparu. On sait que pratiquement toutes les espèces vivantes sont en danger, dans la plupart des cas. Et je vais m'arrêter là parce que je n'ai aucun... c'est pas un domaine dans lequel je suis vraiment très, très informé, mais en tous les cas, voilà, je pense que c'est des sujets, comme tu le dis si bien, des sujets... On va marcher en montagne, on ne se soucie pas trop de où on marche. On sait très bien qu'aujourd'hui, on marche sur des chemins qui sont des insectes... dans certains cas, quand par la période de sécheresse, on a dû le montrer de manière évidente, certains terrains ne sont plus accessibles à certains types d'insectes, par exemple, parce que c'est trop sec ou parce que, bon, pour X raisons. Voilà, je pense que c'est des domaines, et moi, justement, je suis un peu comme toi, je suis un utilisateur de l'environnement, mais je ne suis pas un connaisseur de cet environnement. Donc, je crois qu'il est intéressant aussi que chacun puisse se dire, quand il se trouve en montagne, en l'occurrence, c'est quoi mon environnement ? Je suis un élément de la nature. L'homme a voulu maîtriser cet environnement, mais on voit bien que l'environnement lui renvoie la balle. Donc voilà, c'est de se poser des questions, comment... et là, je ferai une petite aparté que tout le monde a vécu à travers les médias. On voit bien que la forêt est en danger. Elle a brûlé partout en Europe, énormément en France. Elle a encore repris d'ailleurs dans le sud-ouest, du côté de la Gironde. Donc on voit bien que c'est des choses qui nous paraissaient d'évidence. Je crois que c'est ça aussi la grande période qu'on vit aujourd'hui. Toutes ces choses qui nous paraissaient d'évidence, l'eau, l'électricité, le gaz, le pétrole, on s'aperçoit que c'est des sources finies. Et en tous les cas, on ne pourra plus en user comme on en usait encore il y a un an, je pense en tous les cas.
Mois suivant, 20 janvier, en passant 2023, et là ce sera Laurence Creton. Elle propose un parcours des pionnières de l'art. Donc c'est la sous-représentation des femmes dans l'art pictural et quelques parcours d'émancipation entre la fin du 19e et les années 1960. Un sujet qui, malgré tout, est encore plus contemporain, je dirais. Hein. Il n'y a qu'à voir aussi Matrimoine en Diwa, dans quoi elle s'engage à faire reconnaître certaines personnalités du Diwa, d'ailleurs. On peut présenter Laurence Creton, c'est une historienne.
C'est une professeure de littérature qui a écrit un livre, le dernier livre qu'elle a écrit, c'est sur Camille Claudel. C'est comme ça qu'est venue cette idée, elle c'est aussi une spécialiste de l'art, et c'est comme ça qu'est venue cette idée des pionnières dans l'art. Je veux dire que les femmes ont été, dans tous les domaines, rendues invisibles par le machisme. Voilà, je ne sais pas s'il y aura des femmes qui écouteront ces paroles. Ou le patriarcat, sexisme, misogynie et autres. Et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit déjà qu'aujourd'hui, les femmes sont plus visibles, et heureusement qu'elles sont tout aussi créatives que les hommes dans tous les domaines, mais que ces femmes existaient. Elles existent depuis fort longtemps, mais elles ont été rendues invisibles dans tous les domaines, peinture, art plastique, cinéma, puisqu'on sait que maintenant que les pionnières en France dans le domaine du cinéma ont été les femmes. Et qu'aux États-Unis, il y a un cas assez exceptionnel d'une comédienne qui est devenue réalisatrice, qui s'appelait Ida Lupino, qui, des années 45 aux années 60, a été la seule réalisatrice aux États-Unis. La seule. Donc, on voit bien les progrès qui ont été réalisés dans ce domaine. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question, et en tous les cas, je ne me la pose pas, de savoir par qui est réalisé le film. Je l'apprécie non pas au nom ou à la catégorie, au genre du réalisateur, mais à ce qui est produit. Je pense que ce n'est pas donner un crédit, un blanc-seing aux femmes, c'est simplement les considérer à égalité dans tous les domaines.
Nous passons vendredi 24 février à 19h. Ce sera Marc Courtieux qui proposera un intitulé « La parole » dans cet entretien avec le public. Et donc il s'agit de savoir ce qu'elle fait aux hommes.
Ça, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Ce que nous sommes en train de dire, les propos que je suis en train de tenir, il y a certainement des gens qui écouteront cette émission qui se diraient « mais il est débile ce type ». Voilà, on voit bien qu'il y a les paroles que je prononce peuvent séduire, ce qu'on souhaite toujours faire en tous les cas, elles peuvent déplaire. Donc il y a ça, et puis on pourrait dire c'est... Ce n'est pas un psychanalyste, hein, c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à la littérature essentiellement, mais on pourrait dire que dans cette question, ce qu'elle fait aux hommes, il y a presque un aspect psychanalytique. Quand je parle, qu'est-ce que je dis ? Est-ce que les mots que je prononce sont l'intégralité de ma pensée ? Est-ce que je maquille quelque chose ? Enfin voilà, en tous les cas, c'est moi une interprétation de ce sous-titre qui me fait réfléchir, et je trouve que il y a quelque chose d'assez mystérieux dans ce « la parole » et dans ce qu'elle fait aux hommes. Aux hommes, sous-entend bien entendu aux femmes, je le précise.
La parole, il y a de multiples manières de la formuler. Ça sera peut-être aussi un petit panorama de cette expression de la parole, avec des optiques parfois très différentes.
Pour répondre à ta question, ça c'est tout à fait personnel ce que je vais exprimer. Je ne regarde jamais un synopsis avant d'aller voir un film. Je ne regarde jamais un synopsis avant d'aller voir un film. Et là, c'est pareil. L'idée, c'est pas de savoir. Enfin, il y a un titre. Bon, moi, c'est l'intérêt que souvent que je trouve, c'est qu'il y a des titres qui me surprennent. C'est comme récemment, Jean-Luc Godard est mort. Au-delà de ses films, il y a la manière dont il parle. Moi, ça me passionne. Des fois, j'y comprends pas grand-chose. Parce que c'est une pensée tellement touffue, tellement dense. Mais il y a quelque chose qui me séduit terriblement dans ce foisonnement. Là, c'est un peu la même chose. Je crois que dans tous les domaines, je reste un peu béotien. Voilà, je le suis essentiellement, mais je continue à l'être en me disant, tiens, c'est vraiment la parole, ce qu'elle fait aux hommes. Moi, je ne sais pas, moi, je lirai ce titre, je me précipiterai. Je le souhaite, en tous les cas, pour la plupart des gens qui entendront ce...
À cette pensée, pour Jean-Luc Godard, j'insérerais bien un extrait sonore de Nouvelle Vague dans cette émission.
Excellent.
Alors, monsieur Bourgel, pourtant l'homme est né dans le malheur et l'infortune. Comment n'est-il pas accoutumé aux déceptions et un peu plus endurci contre la malchance? C'est le bonheur qui le touche difficilement. S'il était revenu de ce côté-là.
Tu admires la nature.
En amour, nous nous rendons compte généralement trop tard si un cœur ne nous était que prêté. S'il nous était offert. Ou bien alors sacrifié.
Et nous reprenons le vendredi 10 mars. Il s'agira d'Alain Gigondet. Alors, ce que je regrette peut-être au départ, c'est de ne pas avoir aussi présenté leur profession à toutes ces personnes. Et donc là, je vous le demande, Christian, Alain Gigondet est enseignant, chercheur.
C'est un prof de philo. Alors, voilà, professeur, ancien prof de philo, puisque maintenant il est à la retraite. Mais voilà, c'est un spécialiste de la... De la Grèce antique.
Et donc, il propose un titre, Athènes, 4e siècle avant Jésus-Christ. 2. La démocratie en question. Donc, il s'agit de parler de la critique platonicienne et de la démocratie et la réponse d'Aristote. Je crois qu'ils étaient un peu antagonistes, eux-mêmes. Mmh. Donc, il y avait un jeu aussi, quelque part, pour eux. Et donc, il sera abordé peut-être cet aspect et une retranscription avec notre époque d'aujourd'hui ou pas ?
La question va se poser. Et puis, en plus, on le verra, mais tu vas le développer. Mais la démocratie est au cœur de trois interventions. Celle d'Alain Gigondet, celle que tu vas évoquer ensuite, celle de Laureline Fontaine, que les gens ont déjà eu l'occasion d'entendre, et puis celle de Gérard Bras. Voilà. Donc la démocratie, on est en plein dedans. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce que c'est d'aller voter? On s'aperçoit que les Italiens vont aller voter, vont certainement élire une dirigeante d'extrême droite. Alors, est-ce qu'on doit empêcher les gens de voter parce qu'ils vont voter extrême droite? Non, la démocratie, c'est la pluralité, avec toutes les menaces que ça sous-entend et les excès que le pouvoir peut en avoir. Voilà, c'est aussi de redéfinir, peut-être, on le disait localement, nationalement, et de manière européenne et puis mondiale, mais je pense qu'il ne faut pas aussi pousser le bouchon trop loin, espérer que les citoyens aient une place plus importante dans l'expression. C'est vrai que le référendum, quel qu'il soit, sous quelque forme que ce soit, devrait être plus usité qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce serait intéressant de pouvoir faire parler des gens, par exemple, sur un sujet qui a été évoqué récemment, c'est la fin de vie. Voilà. Donc la démocratie, ça, qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que c'est simplement une élite qui parle au nom d'eux? Ou est-ce que c'est un peuple qui s'exprime? Alors, ça, ce sera, je pense, le sens de l'ensemble des interventions traitant de la démocratie.
J'avais envie de rajouter, quand bien même l'expression donnée au peuple n'est pas forcément utilisée, hein, et qu'ils se retrouvent simplement ou se sentent simplement cantonnés à devoir voter lors de ces périodes. Donc, samedi 1er avril, Laureline Fontaine, qui
là,
est déjà venue.
C'est pas quelqu'un,
plusieurs fois,
elle n'est pas inconnue.
Et qui présente Le pouvoir démocratique. Elle est professeure de droit constitutionnel à Sorbonne Nouvelle, à Paris, elle nous a présenté différentes abords sur le pouvoir constitutionnel, et là, c'est le pouvoir démocratique, sous le biais toujours de cet aspect du droit constitutionnel, de la constitutionnalité.
Je le pense, mais là aussi, c'est souvent les titres qui ont été marqués sont, le point zéro de ce que vont dire les intervenants. Bien souvent, moi je laisse une totale liberté à ceux qui viennent de développer un sujet. Des fois, ils me font souvent des propositions, je leur dis peut-être plutôt celui-là où on en discute, et voilà. Mais c'est souvent le point zéro. Ils ont une idée en tête et ils vont développer au cours du temps leur argumentaire ou la présentation qu'ils feront. Donc, je crois que c'est tout à fait d'ailleurs la position... bien qu'elle ait écrit un texte que je ne vais pas incorporer, parce que justement, l'idée, c'est de simplifier. Auparavant, je reprécise, parce que c'est auparavant, on avait un flyer qu'un certain nombre de gens pourront recevoir ou reçoivent déjà, où il y avait un texte de présentation des conférences. Et j'ai eu le pressentiment, la crainte et aussi des retours de certaines personnes qui, à la lecture de ces textes, elle se disait, c'est pas pour moi. Et là aussi, l'idée, c'est un enjeu, de mon point de vue, populaire dans le bon sens du terme. C'est qu'un maximum de gens puissent se dire, j'ose pousser la porte. C'est comme quand des gens qui disent, je ne suis jamais allé dans un musée. Il suffit de pousser une porte et de se dire, je vais simplement regarder, sans se poser la question de savoir ce qu'a voulu dire le peintre. Simplement écouter, regarder, se mettre dans une sorte d'ouverture maximale et puis se dire, voilà, je vais voir comment les choses agissent en moi. Voilà, donc c'est valable un peu pour toutes les thématiques qui seront développées encore cette année.
Il y a cet aspect aussi du texte écrit à lire et qui parfois justement semble répulsif, hein, en quelque sorte. Et en même temps, ce texte lu amène une nouvelle dimension d'écoute. Et là, tout d'un coup, le texte devient limpide. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Est-ce qu'il faut-il développer la littérature parlée, lue, pour justement, afin d'être mieux comprise?
Oui, bien sûr, je suis d'accord. Je prends Godard qui disait, il parlait de Brecht, il disait, en fin de compte, Brecht, dans ses excès, comme on peut le connaître, Brecht n'était pas fait pour être joué, c'était fait pour être lu. Donc voilà, ça c'est une... Alors tu vois, c'est le contre-pied de ce que tu dis. Et là, je fais une aparté, je sors du sujet, mais ça, je digresse beaucoup. Donc, samedi prochain, nous avons une idée, avec Marielle de l'association de l'Okaba, d'organiser une petite... un petit partage, justement, on parlait de partage, autour de, avec un titre qui est « Tiens, viens lire un coup à la maison ». Voilà. Et l'idée, c'est que les gens viennent avec un texte, qui, de quelque nature qu'il soit, c'est à leur libre choix, 5 minutes par intervenant, voilà, et on vient parler. Et je me suis aperçu qu'il y avait un nombre, je pensais qu'on serait 5, 6, 7, là on devrait être 25 ou 30. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un besoin d'expression. À travers des choses qui vont être... Il y a plein de gens qui vont lire des poèmes, par exemple. La poésie, on ne peut pas dire que chez Segers, s'il pouvait vendre autant de poésie vite qu'après la guerre, et je pense qu'ils en seraient ravis. Ce n'est pas le cas, loin de là. Mais il y a des gens qui, voilà, il y a des gens qui écrivent. Il y a plusieurs personnes qui viendront parce qu'ils ont écrit poèmes ou textes, petits textes. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une très grande place donnée à ça aussi. Voilà, juste, j'étais peut-être à côté du sujet.
Non, c'est bien, c'était comme tu disais, une aparté. Et donc, on passe au 13 mai avec Alain Chaffel, habitué aussi à
voilà,
venir.
Voilà, exactement, il y a des têtes d'affiche, si je peux m'exprimer ainsi, qui reviennent.
Et lui présentera La France, vieille terre d'immigration. Et donc, il s'agira d'aborder la singularité française du milieu du 19e siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Et oui.
Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Alain Chaffel, on peut préciser ce qu'il exerce comme activité.
Il a un doctorat d'histoire, il était prof d'histoire, voilà, pareil. Et puis, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'interventions. Il a gardé aussi ce désir, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de tous les gens qui sont... de tous les enseignants qui se mettent à la retraite, certains continuent et d'autres pas. Voilà, on le connaît qu'Alain Chaffel, Alain Gigandet, Gérard Bras sont des gens qui continuent à s'investir dans, on pourrait dire, l'éducation populaire, comme je disais tout à l'heure. Voilà, Alain Chaffel est dans cette mouvance.
Et Gérard Bras clôturera cette année-là, le 3 juin, toujours à 19h. C'est bien cet horaire, 19h, c'est en fin d'après-midi. Et ça permet d'éviter d'attendre trop tardivement les débuts de soirée parfois,
exactement.
Surtout l'hiver.
Voilà.
Et donc, lui présentera, comme tu le disais en début d'émission, consensus ou démocratie par rapport à ce compromis voilà, ou ce dissensus.
Voilà, le dissensus, cher à Jacques Rancière, bien entendu, puisque il s'appuie sur les thèses, sur ce dont on parle Jacques Rancière du dissensus, voilà. Et donc avec l'idée, en tous les cas, je ne veux pas dévoiler, mais qu'il n'y a pas de notion de compromis. Donc c'est un peu radical, mais est-ce que cette position, lui, sera certainement à même de nous éclairer sur quelles sont les marges de manœuvre entre deux parties qui ne sont pas du même avis. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire on en saura plus, mais c'est bien loin encore, hein, le mois de juin. Il s'en passera des choses.
Ouf, sûrement. Et donc, tous ces entretiens avec seront en entrée libre et participation libre aussi. C'est un moyen de financer un peu ces entretiens, ces rendez-vous, ne serait-ce que pour le transport ou la location d'une salle.
Exactement. Alors, l'association Le Cabane est comme toutes les associations à but non lucratif, mais avec une spécificité, mais qui n'est pas une exception, certainement, ni dans le Linois, ni ailleurs. C'est de convertir systématiquement les rentrées en sorties. C'est-à-dire que les finances tiennent aux subventions. Donc, je remercie à l'occasion la municipalité de Lucandiois qui verse régulièrement des subventions à l'association, comme à d'autres associations, bien entendu. Et donc, elle participe à distance au maintien de cette activité et de toutes les activités de l'association du CABA. Et ça couvre les frais de déplacement, les locations de salles, les frais annexes, parce que ce qu'on avait instauré, qu'on avait abandonné, mais qu'on va essayer de reprendre déjà avec ce que j'évoquais tout à l'heure avec le verre offert par la Carline, c'est retrouver un moment de convivialité après, c'est-à-dire un verre pour poursuivre un peu l'échange et aller dans le sens que tu évoquais précédemment, c'est de revenir à des liens interpersonnels des gens qui ont écouté la même chose et qui vont commencer à en parler. Voilà, je trouve que c'est bien de l'avoir à chaud, d'avoir cette possibilité de la retrouver. Donc, je pense que nous aurons, dans la mesure du possible, nous allons réinstaurer ce verre de la convivialité postérieure aux entretiens. Et voilà. Et donc, effectivement, la participation... on sait que c'est dur en ce moment, les gens sont dans les difficultés à des degrés très différents, bien entendu, la population n'est pas homogène, mais voilà, toute association a besoin d'un minimum pour faire perdurer une activité. Donc voilà, je ne fais pas appel à entrée libre et participation libre, ça me paraît essentiel.
Tout à l'heure, vous parliez d'Alain Gigondet, Alain Chaffel, Gérard Bras, qui, au-delà de leur activité, de leur profession, continuent. Ils sont à la retraite,
oui, tout à fait.
Et donc, au-delà de cette limite, ils continuent malgré tout à propager leur science, leur connaissance. C'est une organisation qu'on peut retrouver aussi un peu partout en France.
En l'occurrence, Gérard Bras est président de l'Université populaire des Hauts-de-Seine, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, Alain Gigondet, qui habite la région parisienne, y intervient pour des séries de cours. Oui, bien sûr. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est vital. Et ce que je voudrais faire aussi comme aparté, c'est que ça entretient toujours quelque chose qu'on fait qu'on va faire encore cette année à travers les entretiens, c'est le rapport physique avec un intervenant, on voit bien que les sources d'informations sont diverses et variées et on a une richesse invraisemblable qui peut nous parvenir par les voies de l'Internet. Ça, c'est, j'en suis utilisateur et consommateur, entre guillemets. Mais je crois qu'il y a quelque chose, c'est comme pour le théâtre, la salle, c'est quelque chose d'essentiel pour ressentir un sentiment tout à fait particulier que l'écran ne rend pas. Et je pense que dans le cadre des... de choses aussi simples que ça, d'avoir un intervenant en face de soi qui est physiquement présent, dont on voit toutes les forces et les faiblesses, parce que des fois le corps parle, les mots disent des choses, mais le corps parle autrement, mais pas nécessairement dans le mauvais sens du terme, mais en tous les cas, voilà, on a un être humain qui parle devant moi, je peux intervenir, je peux lui parler, je peux lui donner un retour positif, négatif. En tous les cas, il y a cette interaction. Et ça revient à ce que tu disais, comment peuvent naître des collaborations en échangeant nécessairement? Je ne vois pas comment ça peut se faire autrement.
Pour se documenter, pour les dates, ne serait-ce que pour les dates, il y a un moyen de connaître cette année
Alors, je vais le mettre, je vais le résumer sous mon propre intitulé mail. Donc, je vais christian.le tiré du 6, Corvic, Corvic, @wanadoo.fr. Voilà, si vous entendez, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.
Voilà, pour les rencontres d'Iwaz, donc c'est entretien avec, et ça sera pour cette saison 2022-2023, essentiellement à la salle communautaire de l'ESCDD, place de l'Évêché à Die. Eh bien, Christian Le Corvic, je te remercie d'être venu nous parler de ces séries d'entretiens. Et puis, je te souhaite une bonne soirée.
Eh bien, merci Yves et je te remercie pour ton invitation.
Au revoir.
Au revoir.
C'est la même chanson qui recommence. De nouveau, on nous propose le futur.
Soyez tranquille. La solution est utopique. Regardez bien autour de vous.
Qui
aime la vie?
Autrefois, le peuple était heureux parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il était heureux.
Aujourd'hui, il n'est pas heureux parce que tous les jours, on lui explique son bonheur.
Les ouvriers en Occident habitent encore la conscience collective.
Une image de l'État ne sert
mais il ne paie plus de loyer.
Permettez, la profonde immoralité de l'État vient surtout du fait que non seulement... il autorise et encourage, mais aussi, selon les circonstances, oblige ses employés à donner libre cours aux particularités innées qui sont le lot de l'humanité en général. Insouciance, méfiance, vanité du pouvoir, désir de vengeance, sans les punir. Le plus souvent, avec une perspective de récompense. Enfin, où est-elle ?
Madame téléphone. Les femmes sont amoureuses et les hommes sont solitaires.
Une femme ne peut pas beaucoup nuire à un homme.
Bonjour, monsieur Lennox.
Il porte en lui-même toute sa tragédie.
Restez pas là comme ça.
Elle peut le gêner, l'agacer. Elle peut le tuer. C'est tout.
Contessa,
monsieur
le secrétaire d'État à la recherche scientifique.
Les machines peuvent vivre leurs dernières heures.
Donnez vos documents au ministre.
Madame la comtesse.
Mon ami, avancez donc, qu'est-ce que vous faites là?
Je fais pitié.
Mais non. Oh, l'amour indéterminé n'existe pas.
L'eau circule et s'évanouit.
Les femmes.
Et sa mémoire reste.
Ça ne veut rien dire.
Donc, nous, mon secret.
Nous avons moins d'amour que nous n'avons d'attachement.
Alors, toutes les formes de la création sont possibles.
L'attachement forcé.
Impossible.
Toutes les formes.
Quand j'étais jeune attaché à l'ambassade US à Rome, j'ai connu un Torlato Favrini.
C'est mon père.
Ah.
Oui.
N'est-ce pas, je
pense. Il était très ami avec monsieur l'ambassadeur.
Joseph Mankiewicz.
Oui. Il découpe dans le noyau.
Ah, quel homme.
Un film de quoi?
Il ne faisait pas de cinéma comme les autres. Simplement son travail.
Les tons, le dixième.
Torlato Favrini, industriel, c'est vous.
Oui.
Le mystère est là.
Tout ça est à moi.
Et les Japonais?
Aucune copie n'est possible. Nous sommes les seuls.
Original.
Une sacrée banalité que nous proposons comme paiement.
Contre-paiement?
Non, Della. Comme paiement. Il faut imposer l'idée de la dette. N'est-ce pas, Spoons?
Oui, monsieur.
Les amis du budget seront enchantés d'entendre cette réflexion.
Pas ici. Eh bien, Spoons, expliquez-nous votre affaire.
Je ne m'en voulais pas, mais j'ai oublié le nom.
Centre d'étincelles.
Centre d'étincelles.